Vous écoutez
RMC.
RMC.
Comme du prochain meilleur milieu de terrain, certains osaient des comparaisons avec Zinedine Zidane.
J'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok, c'est très bien, mais à un moment donné.
Sa chaussure.
Sa carrosse, sa chaussure, c'est
ça. Je veux dire que je suis finito ?
Non, pas du tout, Walid, mais je dis que dans le cycle de la vie, il faut préparer l'après Walid, ou en tout cas l'avec Walid.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bravo Adem est avec nous, sa première c'est dans Génération bon, After. Punchline, hein, c'était épisode 1 de la nouvelle star de l'After au stade Jean Bouin.
C'est un bon épisode.
T'avais attaqué frontalement Walid. T'as tout vu ou pas, toi Fabrice?
Non, j'ai pas vu quasiment tout. Ouais,
quasiment tout.
La finale, cet épisode, je l'avais vu aussi.
Le dernier est en ligne, vous le savez, version montée avec les coulisses depuis 18h sur YouTube. Allez-y, 40 minutes, c'est merveilleux. On s'est régalé sur la finale, beaucoup d'émotions bien sûr. Et donc Adem est avec nous ce soir. Alors, le PSG, on profite de la présence de Fabrice qui a signé un papier sur le site rmcsport.fr, notamment sur le mercato parisien. Évidemment, quand tu es supporter parisien, tu te demandes, tu as un peu partagé, tu te dis, est-ce qu'on va maintenir une stabilité alors qu'on va le dire, hein, sur les 6 premiers mois, certains ici même disaient, mais pourquoi on n'a pas recruté, pourquoi on n'a pas anticipé?
Ça fait deux saisons qu'on faisait la même chose.
On tient sur 12 joueurs d'un niveau homogène, ça ne va pas tenir, on va coincer en quart, en demi. Finalement, c'est Luis Enrique qui a eu raison. Et avec son staff, ils ont très bien bossé, et Luis Campos également. Est-ce que, en revanche, j'ai en tête, hein, il y a quelques jours, une déclaration de Luis Enrique qui avait dit, il va falloir renouveler un petit peu l'effectif quand même.
Bien sûr.
Le rafraîchir aussi. Mmh. Est-ce que le mercato 2026 sera différent du mercato 2025?
Oui, parce que, pour moi, il y a eu un mercato qui est vraiment, il était vraiment très à la marge, en fait, la saison passée. Il y a eu deux arrivées, il y a Zabarni, Lucas Chevalier, ça négociait d'ailleurs depuis de très très longs mois, donc c'était dans les petits papiers, presque en mai, tu savais quel était le mercato du Paris Saint-Germain. Là, c'est légèrement différent parce qu'il y a des joueurs qui arrivent en fin de cycle, j'ai envie de dire, il y a bout de souffle, qui ont envie de partir, clairement, que le club ne retiendra pas. Je pense notamment à Gonzalo Ramos, je pense à Kangin Lee aussi. Ce sont des joueurs qui seront remplacés. Ils seront remplacés par des joueurs de niveau, j'ai envie de dire, équivalent, hein, notamment pour Gonzalo Ramos. Je pense pas qu'ils vont amener quelqu'un qui revendique quoi que ce soit. De toute façon, Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est difficile de revendiquer quoi que ce soit, hein. C'est Luis Enrique qui décide. Mais j'entends par là, je pense pas qu'ils vont remplacer Gonzalo Ramos par un joueur à 100 millions d'euros.
Donc, pour être très clair, pas par un Rolien Alvarez, par exemple.
Non.
Ça, c'est aussi un délire absolu. Ça coûte 100 millions minimum, hein, Rudy Alvarez aujourd'hui.
Un minimum, comme
le
tu dis.
Le PSG les mettra pas. En plus, pour quel rôle au PSG, quoi? Est-ce que lui aura envie de venir pour un rôle de doublure, finalement, de Ousmane Dembélé? Ce serait ça, la réalité. Sauf s'il y a un changement de système improbable, selon moi, l'an prochain.
Non, je pense pas qu'il viendra, et pour plusieurs raisons. Déjà, il y a le prix, et il y a aussi le fait que, aujourd'hui, pour jouer au Paris Saint-Germain, maintenant, c'est un grand club, c'est une grande institution, et il souhaite que les joueurs aient envie de venir au Paris Saint-Germain, et uniquement au Paris Saint-Germain. Et c'est pas les signaux qu'il a envoyé, Julian Alvarez, sur ces derniers mois, et c'est ce qui me fait dire qu'à mon sens, il ne viendra pas. Pour parler des joueurs qui sont susceptibles de partir, ou en tout cas pour qui il y a une question. C'est pas parce que je vais les citer qu'ils vont nécessairement partir, mais en tout cas la question se pose aujourd'hui. C'est Nima Youlou qui arrive en fin de contrat en 2027, donc l'année prochaine ça va arriver vraiment très vite. Pour lui, là en fait il faut choisir. Où il part, où il reste. Mais s'il reste, il prolonge. Et donc, il y a des négociations qui sont en cours et on va voir comment ça va se
terminer. En attendant, c'est lui, en tout cas, de ce qu'il voudrait faire ou pas, c'est Nima Youlou.
Lui veut rester.
Il veut rester quand même.
Ouais, lui veut rester. Ensuite, il y a Ibrahim Baye, lui aussi, fin de contrat 2028. Donc, c'est un joueur, et ça aussi, je pense que les gens ne s'en rendent pas bien compte, sur le marché des ailiers de rupture qui sont rapides, qui sont jeunes comme lui, il n'y en a pas énormément. Donc aujourd'hui, Ibrahim Mbaye sur le marché, il y a des clubs qui sont prêts à payer entre 40 et 60 millions d'euros. Donc la question va se poser pour lui aussi, est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il part? Et puis enfin, Bradley Barcola, qui lui, pour le coup,
alors ça, c'est important.
C'est un très très gros sujet, parce qu'international français, parce qu'il y a des clubs, et des clubs de premier plan, notamment en Première Ligue, qui lui font la cour depuis des années, qui sont prêts à casser la banque. Donc sur ce profil-là, il va vraiment y avoir des sujets. On rappelle simplement, en fin de contrat 2028, il y a des négociations qui sont en cours, j'allais dire depuis 6 mois, mais quasiment depuis 24 mois, c'est ça la réalité pour Bradley Barcola. Il n'y a toujours pas eu de prolongation. Entre-temps, il a changé d'agent, hein. C'est pour ça aussi.
Oui,
on peut comprendre que ça traîne un peu. Mais il va falloir quand même prendre une décision, elle n'est pas prise encore.
Lui, on ne connaît pas sa volonté aujourd'hui. Voilà.
Très honnêtement, non.
On ne connaît pas sa volonté. Non. Bradley Barcola qui... Il y a une fatalité pour lui, finalement. Il sera toujours derrière les trois.
Au nom de quoi?
Il sera toujours derrière les trois.
Qu'il a aujourd'hui. Traité. Qui l'a décrété?
Louis Enrique. C'est l'étage en dessous, je trouve.
Non, c'est en dessous pour toi, Adel.
Non, moi, je suis pas d'accord parce que, encore une fois, on a bien vu que sur la première partie de saison 2025-2026, il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur les barrages.
Il a beaucoup joué sur quoi? Les mecs étaient pas là.
Il a beaucoup joué. Je n'oublie pas que sur le barrage contre Monaco, il a joué. Je n'oublie pas qu'il a, il a été impactant contre Chelsea, aussi bien au match aller qu'au match retour, et que sa saison, elle tourne parce qu'il y a la blessure, causé par Joao Pedro,
et que par rapport à ça, meilleur que lui.
Non, et que par rapport à ça, il y a d'autres joueurs qui, à son absence, c'est vrai, ont été très importants. Mais pour moi, quand on sait qu'on a un entraîneur, Luis Enrique, qui n'est pas dans le conformisme, qui n'est pas dans l'immobilisme, et qui est capable justement de bouger les lignes et de remettre en question certains statuts, je veux dire, Désiré Doué est passé par le banc, Garachea, que tout le monde porte au nu, est passé sur le banc.
On a bien vu sur la finale que Zaire et Moulaki, tranquillement quand Fabien Ruiz revient.
On a compris la croyance profonde de Luis Enrique, j'ai l'impression quand même.
On a son 11 type, on le connaît, et moi je trouve que Bradley Barcola, oui, il a été excellent quand on a fait appel à lui, mais je trouve tout simplement qu'il y a meilleur que lui au poste. D'aujourd'hui, il y a un plafond de verre pour Bradley Barcola, surtout techniquement. Moi je le suis, que je ne vois pas pour Kvaratskhelia, à qui je ne fixe pas de limite, à qui je ne vois pas pour Doué, parce que je ne vois pas de limite technique et de plafond de verre à poser à Doué. Alors que Barcola, on a bien vu qu'il stagne, moi je trouve, depuis deux saisons. Il y a eu ces deux buts contre Chelsea où on s'est dit peut-être que, mais j'ai bien l'impression que c'était le coup d'un soir et pas le coup d'une saison.
Je te trouve un peu dur avec Bradley Barcola, ouais, parce qu'il a un profil atypique, parce que aujourd'hui, justement, je parlais tout à l'heure des ailiers de rupture, des joueurs qui sont capables comme ça d'avaler les kilomètres. On l'a vu d'ailleurs quand il est rentré contre le. En finale de Ligue des Champions contre Arsenal, il aurait pu faire mieux sur les deux occasions qu'il a eues, mais en tout cas, il se crée ces situations-là, et c'est aussi pour ça sa cote elle est élevée, qu'il y a énormément de clubs sur lui. Tu parles de déchets, parfois techniques, devant le but, je pense qu'il peut progresser encore.
Fabrice.
Moi, je pense que c'est franchement juste les goûts et les couleurs. Et aujourd'hui, je suis persuadé que malheureusement pour Bradley Barcola, Luis Enrique préfère Désiré Doué, et ça c'est la réalité, parce que en fait, il y a même pas de sujet. Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé, quand ils sont à 100%, ils vont jouer les gros matchs de
Mais Désiré Doué, c'est pareil, Fabrice.
Et Désiré Doué, je pense
là aussi aujourd'hui.
Ouais, non, mais bien sûr. Mais c'est le constat qu'en fait tu fais. Et aujourd'hui, quand tu es Bradley Barcola, moi je sais pas ce qu'il a décidé, je sais pas ce qu'il pense. Mais en tout cas, quand tu es Bradley Barcola, t'es obligé de te poser la question de savoir si tu veux rester, sachant que tu ne joueras pas.
C'est un choix de vie.
Ces grands matchs-là, quand les autres seront là, ou alors est-ce que tu veux tenter une nouvelle aventure? T'as déjà deux Ligues des Champions.
Ou tu seras sûrement dans un 11 d'un grand club anglais.
Exactement.
Très certainement, que ce soit à United ou ailleurs, mérite-t-il de vivre une autre expérience ailleurs? Après, Nico, en étant un cadre dans un grand club européen. C'est un choix presque personnel.
J'ai pas envie d'être définitif sur un joueur qui a 23 ans, sur un joueur qui, depuis 3 saisons en Ligue des Champions.
Tu trouves qu'il progresse réellement sur l'année passée?
Moi, je n'oublie pas encore ce qu'il faisait en début d'année civile. Et on parle d'un joueur qui conditionne des phases éliminatoires de Ligue des Champions.
Moi, je suis d'accord. Il progresse. Mais malheureusement, peut-être que les autres progressent plus vite.
C'est surtout qu'en fait, il y a d'autres joueurs qui tutoient les étoiles. On parle de Kvaratskhelia comme un candidat au Ballon d'Or. On parle d'Ousmane Dembélé comme d'un Ballon d'Or en titre. Voilà la référence. Voilà, entre guillemets, le niveau. Mais Barcola, je vais pas l'excuser. Enfin, je vais pas l'attaquer parce qu'il a pas le niveau d'un Ballon d'Or.
Mais tu sais, Elton, en début de saison, je pense que oui, c'est la saison dernière où il y avait des matchs où c'est vrai que Désiré Doué, il avait pas encore tutoyé les étoiles, comme tu dis.
Bien sûr.
Et Luis Enrique, à l'époque, il avait déjà le choix entre les deux. Et souviens-toi qu'il jouait les grands matchs. C'était déjà Désiré Doué. Parce qu'en réalité, rien ne le prédestinait à jouer plus que Bradley Barcola.
Parce qu'attention,
c'est lui qui était choisi.
Je suis pas en train de dire que Barcola est un mauvais joueur, c'est un top ailier mondial aujourd'hui, c'est un remplaçant de luxe, c'est un remplaçant de luxe pour le Paris Saint-Germain qui a la chance de l'avoir. Mais si je me place en tant que joueur, ce que je ne suis pas, mais si j'étais Bradley Barcola et que je ne suis jamais sur la photo finale, jamais là en finale de Ligue des Champions, jamais là dans les 30 nominés au Ballon d'Or, jamais là au trophée UNFP quand il faut titrer le meilleur joueur de Ligue 1, et que tous mes copains y sont, et que même en équipe de France, Désiré Doué est devant toi parce que tu te retrouves derrière lui en club.
Ça va être intéressant d'ailleurs de le voir.
Et ben si le Bayern Munich toque à la porte, si Liverpool toque à la porte, si Arsenal toque à la porte, je suis à l'écoute des offres, bien évidemment.
Mais moi j'y vais.
Moi, Nico, je dis que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs et que.
Quand t'as gagné deux Ligues des Champions, quand même.
C'est bon, ça y est.
Et tu peux aussi faire l'histoire. Et moi,
je te dis pas qu'il faut qu'il parte, mais en tout cas, je comprendrais qu'il pose la question.
Moi, je dis sincèrement qu'aujourd'hui, 45 matchs titulaires au PSG.
C'est pas les bons matchs.
C'est mieux que 65 matchs dans un club.
Mais c'est une frustration pour Barcola. Il fait début de saison, les mecs se pètent l'un après l'autre. Il fait le boulot, c'est lui qui marque. Saison dernière, jurisprudence également, même cette saison.
Mais début de saison.
C'est lui le meilleur buteur du Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
Et dès que ça devient intéressant et important,
Et parce bench. Que pourquoi parce que
bench.
Mais parce que malheureusement il y a un fait qui est très important et que vous oubliez, il y a cette blessure contre Chelsea qui redistribue les cartes et en son absence, il y a des joueurs
Adam, il a raison, Achraf Hakimi, il a joué titulaire quand il est revenu en finale de Ligue des
Champions. Parce qu'Achraf Hakimi, il a un autre statut, il a un statut de titulaire qui est beaucoup plus affirmé.
L'année dernière,
jusqu'au il y a personne derrière.
En plus,
sur les saisons précédentes, il y a une saison où on arrive en janvier, le meilleur buteur de Ligue 1 est Bradley Barcola et pour autant, il pose ses fesses sur le banc le reste de la saison. Donc tu vois bien qu'il peut faire à peu près tout ce qu'il veut, il se retrouvera sur le banc. Il y a des statuts au Paris Saint-Germain.
C'est comme ça.
Les gens veulent nous expliquer qu'il y a une concurrence tout à fait loyale au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas vrai. Il y a un 11 type. Non, ce n'est pas vrai. Quand Zaire Emery, le meilleur joueur du PSG sur les 6 derniers mois, et qui finit sur le banc de touche parce que Fabien Nunes revient, et d'ailleurs, je trouve qu'il a fait une plutôt mauvaise finale, tu vois bien qu'il y a des statuts à respecter aujourd'hui. Non, mais et que certains joueurs.
Des joueurs qui servent à piquer les cadres dans l'esprit de Luis Enrique.
Vous parlez d'une concurrence déloyale dans l'absolu contre Monaco, c'est Désiré Doué qui était sur le banc. Contre Chelsea au match aller, c'était Kvaratskhelia qui était sur le banc. Ça, c'est la concurrence des loyers.
Non, c'est contre le Bayern. C'est quand il revient de blessure, il est sur une très belle dynamique. Et c'est vrai que certains regrettent qu'il n'ait pas eu sa chance.
Non, mais contre le Bayern, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Liverpool qui a assis notamment Kvaratskhelia sur un statut encore plus important, Désiré Doué qui a été très impactant. Et donc, forcément, ça conditionne la perspective de Luis Enrique sur le court terme. Parce que quand tu vois une équipe qui fonctionne,
je suis pas en désaccord avec toi, foncièrement, mais juste comprends ceux qui se disent, Bradley Barcola, au vu de cette saison, qu'est-ce qu'il pouvait faire de mieux, finalement?
Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de plus pour être titulaire?
Le problème, c'est que t'arrives dans une équipe qui, déjà, a remporté deux Ligues des Champions des suites et qui a un niveau qui est tellement haut.
Le niveau de Kvaratskhelia et de Doué et de Dembélé est plus haut que le niveau de Barcola, tout simplement.
On n'est pas en train de te dire que c'est Gonçalo Ramos dans l'esprit de Luis Enrique, mais il est incontestablement le quatrième parmi les choix offensifs de Luis Enrique. Même quand il est bon, qu'un mec remet juste de blessure.
Ouais, mais c'est un défi qui est très compliqué, mais de là à partir et aller dans un projet où t'es pas forcément.
Tu ferais quoi à sa place, franchement?
Moi, je resterais.
Quand tu connais ton niveau, quand tu sais que tu peux être un cadre dans un grand club européen, tu ferais quoi? Tu
resterais. Moi, je resterais parce que j'ai
vendu. Pour la vie parisienne, tu resterais, toi.
Hein? Oui, c'est ça, pour les sorties, hein, les restos. Là où Fabrice te croise en soirée, passer 2h du mat, c'est ça?
Alors, ça, je sais pas d'où viennent ces infos.
Je sais pas d'où viennent non plus.
Elles viennent de toi ou de Fabrice, hein, voilà.
Mais non, mais moi, je resterais parce que déjà, moi, je parle d'un joueur qui a 23 ans, qui a déjà démontré sur 3 saisons, qui était un joueur tout à fait dimensionné pour impacter.
Mais moi, je suis d'accord avec toi, sauf qu'aujourd'hui, il y en a 3 devant.
Il faut qu'il profite.
On tourne en rond, là.
Et en sachant qu'en Ligue 1, ça reste un joueur important.
Aurélien est avec nous. 32-16, supporter parisien, il va essayer de trancher ce débat. Salut Aurélien.
Salut à tous.
Bienvenue sur RMC, heureux de t'accueillir.
Salut Aurélien.
Génération After. Adem, Fabrice et Elton sont à l'écoute. Quel est ton point de vue, toi, concernant Barcola? Après, on va parler d'autres cas individuels, notamment celui de Marquis Marquinhos avec Fabrice.
Moi, concernant Barcola, justement, on a parlé de plafond de verre et ça me fait penser un petit peu à Ousmane Dembélé. Il y a quelques années, on lui attribuait un petit peu ce plafond de verre. Il avait un gros potentiel, mais il avait un problème, par exemple, à la finition. Il faisait souvent des mauvais choix, justement, dans le dernier carré. Et pour moi, Bradley Barcola, il est exactement dans cette même optique. Et pour moi, c'est un des joueurs qui a le plus haut potentiel actuellement dans le football mondial et on l'a dans notre effectif. Donc je vois pas pourquoi on devrait s'en priver. Il faut aussi se rappeler que quand Kylian Mbappé est parti du PSG, c'était lui qui avait pris entre guillemets les rênes dans la première partie de saison. C'est lui qui avait scoré le plus, qui était le joueur le plus décisif. Après, entre temps, Désiré Doué, il a réussi à éclore et à développer un petit peu tout le potentiel qu'il avait en lui. Mais pour moi, Barcola, il a un potentiel qui est pas encore exploité à 100%. Et pour moi, si on le laisse partir, c'est prendre le risque de voir exploser un petit peu comme on a pu voir avec Hugo Ekitike entre autres. On a souvent fait cette erreur-là au PSG, et pour moi, Bradley Barcola, c'est typiquement le même type de cas. Donc pour moi, ça serait une erreur de le laisser partir, sachant que déjà pour trouver une doublure de cette qualité, ça va être très compliqué.
Non, ça c'est sûr. Vous
l'avez dit aussi, prendre un joueur qui va venir au PSG avec le statut actuel du PSG, double champion d'Europe, donc il faudra qu'il accepte éventuellement de pas être forcément titulaire. À combien, dans quelles circonstances? En fait, il y a trop d'inconnus aujourd'hui pour se priver de Bradley Barcola.
Oui, mais il faut compter sur la volonté de Bradley Barcola, Aurélien.
Exactement.
C'est celui qui va décider.
Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, et ça fait maintenant depuis 2 ans qu'ils ont mis ça en place, un joueur qui ne souhaite pas rester au Paris Saint-Germain, on lui montre la porte de sortie. évidemment à la condition qu'un club vienne avec la somme réclamée par le Paris
Saint-Germain. C'est quoi sa cote aujourd'hui, tu
penses? Pour le moment, Bradley Barcola n'a pas dit qu'il souhaitait partir, c'est ça aussi. En tout cas,
c'est
si il tape à la porte du directeur sportif ou du président en disant toc-toc, j'ai envie de m'en aller, c'est une certitude qu'il n'y aurait pas de chiffres. Tout à l'heure, on parlait de ce que réclame Leipzig pour Diomandé autour de 130 millions d'euros.
C'est dingue.
Moi, je pense que on va être dans les mêmes ordres de chiffres.
Non, mais voilà, justement, parce que Nico, la vérité, c'est que si Bradley Barcola est sur le marché des transferts, tous les clubs de la super élite européenne tapent à la porte du PSG. Et pourquoi je dis ça?
Et c'est déjà
oui, parce que la vérité, c'est que.
C'est moi, je parle pas de son niveau.
Non, mais le PSG, pour moi, se tire une balle dans le pied parce que Fabrice, il nous a dit avec justesse le fait qu'on est dans un poste sinistré.
Ils veulent pas partir, Elton. Ils subissent la décision d'un joueur frustré. Non, ça n'a rien à voir.
On est dans un poste sinistré. Et donc, toi, en gros, tirer sur un poste sinistré, mettre plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui serait moins bon que Bradley Barcola, ça n'a aucun sens.
Mais ce n'est
ça
pas le choix du club. Le club, s'ils avaient le choix, ils le prolongeraient, Bradley Barcola.
Mais totalement, le club veut le prolonger. Le club
donc
veut
à un moment donné,
le prolonger.
Si la porte elle est ouverte, c'est juste pour ne pas répéter les erreurs du passé avec Kylian Mbappé notamment. On ne veut pas forcer les joueurs à rester. Donc Bradley Barcola, s'il pense que l'herbe est plus verte ailleurs et que pour sa carrière, le meilleur est d'aller en Angleterre, au Bayern ou je ne sais où, eh ben le club va ouvrir la porte et trouver un remplaçant.
Le jour où la porte est ouverte, effectivement, tu as tous les plus gros clubs européens.
Bien sûr,
elle est encore totalement ouverte parce que Bradley Barcola aujourd'hui, tu le poses la question, il te dit pas je vais partir. Donc
alors vas-y Aurélien.
Oui, non, c'était ça en fait. Ce que je voulais soulever, c'est lui, il n'a pas émis concrètement le désir de vouloir partir. Il veut jouer, je pense, titulaire. Mais comme je sais pas qui l'a souligné tout à l'heure, je crois que c'est Elton. Au moment de la phase finale où on doit prendre, où on prend Chelsea, je trouve qu'il fait une très belle performance. Et c'est vrai que sa blessure, en fait, elle lui coupe un petit peu l'air sous le pied. Et donc du coup, ça lui permet pas de renchaîner. Pour moi, Barcola, vraiment, c'est, je vais pas dire le copier-coller de Dembélé il y a quelques années, mais on s'en rapproche. Mmh. Et avec Luis Enrique comme coach, je pense qu'il peut faire passer un palier à ce joueur-là. Et je pense qu'il est conscient de ça.
Alors, lâchons le cas Barcola, les amis. Il y a un cas aussi qui est un peu épineux, celui de Marquinhos, qui a été porté au nu sur la fin de la saison, notamment après la finale des champions, pour le symbole qu'il représente, les valeurs qu'il véhicule, le brassard, bien sûr, l'homme qui a lutté, la résilience depuis maintenant quoi 11 ans au PSG,
13
ans bientôt 13 ans.
13 ans bientôt au Paris Saint-Germain.
11 mois précisément.
Il est passé vu à 31.
32.
Ça y est, il les a vus 32.
Je me pose une colle.
Normalement,
oui.
Ouais, il les a eu.
Normalement 32. Ouais.
Qu'est-ce qu'il veut faire
mai dernier.
Ça c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il veut faire lui? Qu'est-ce qu'on compte faire avec lui aussi? Est-ce qu'on repart dans l'idée, le syndicat repart dans l'idée qu'il est titulaire en charnière aux côtés de Pacho la saison prochaine encore une fois, alors qu'on a vu certaines limites parfois cette saison?
Déjà, ce qui est intéressant, c'est son âge. Tu l'as signalé, parce que dans l'esprit des gens, on a l'impression que Marquinhos, il a 40 ans. Marquinhos, il a 32 ans.
Oui, mais sur le terrain, tu ressens aussi
au plus haut niveau, Thiago Silva, c'est
une légère régression.
Tous ces joueurs-là ont joué jusqu'à la finale, il a pas 36 ans au très très haut niveau. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai que parfois il est un petit peu moins bien. C'est pour ça, physiquement, je parle. C'est pour ça aussi que, si vous remarquez bien, Luis Enrique l'a beaucoup fait jouer en Ligue des Champions, beaucoup moins en Ligue 1, pour justement conserver cette fraîcheur-là aussi. Lui, qu'est-ce qu'il veut? A priori, pour le moment, il veut rester au Paris Saint-Germain. Les dirigeants ne le poussent pas vers la sortie parce qu'ils respectent le joueur qu'il est, parce qu'il a encore montré cette saison qu'il pouvait rendre des services et qu'il pouvait être performant dans des matchs à très haut niveau et à très grosse intensité. La question, en fait, c'est de savoir est-ce qu'ils vont recruter ou pas. Et pour le moment, s'ils ne sortent pas à Barney et que Marquinhos ne souhaite pas partir, ce qui est la tendance, il n'y aura pas de recrutement à ce poste-là.
Moi, je ne comprends pas le procès qui est fait à Marquinhos chaque été. On a l'impression, comme tu l'as dit, Fabrice, qu'il a 45 ans et qu'on doit le mettre à la retraite. Sauf que quand tu regardes les matchs importants de Ligue des Champions qu'il a eu à jouer, contre le Bayern, il a été très très bon. Contre Liverpool, c'est lui qui fait le sauvetage, on se rappelle, sur le corner face à Van Dijk. Sur la finale, on va en parler de son but, mais ce ricochet-là, n'importe quel défenseur aurait pu faire. Ça, c'était juste pour essayer de lui mettre le maximum de responsabilité sur les épaules pour le sortir. Moi, Marquinhos, aujourd'hui, tu peux te permettre de ne pas le faire jouer en Ligue 1, comme ça a été le cas. Tu peux le garder au frigo pour les grandes soirées de Ligue des Champions. Pourquoi Marquinhos serait moins performant la saison prochaine que ce qu'il n'a été cette saison? Surtout que, même si beaucoup de personnes ne sont pas d'accord, Marquinhos a été très très bon dans les momentum importants du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et surtout, il a une importance prépondérant dans le vestiaire. Et dans une équipe où il y a énormément de jeunes, une moyenne d'âge de seulement 25 ans, avoir un taulier comme ça dans le vestiaire, ça ne va pas être remplacé avec des millions d'euros.
C'est un monument qui est respecté par tous les joueurs, par le staff, par les salariés du club, qui est très apprécié. Alors vous me direz, ça fait pas une fois qu'on a dit ça, c'est pas ce boulot-là qui fait entre guillemets à l'extérieur du terrain qui va le permettre d'être performant sur le terrain. Mais ça compte aussi dans un club comme le Paris Saint-Germain. C'est vraiment lui le garant de l'institution. D'ailleurs, vous regardez bien depuis que le Paris Saint-Germain a évolué sur ces dernières années, il est vraiment mis en avant. Alors qu'il pourrait mettre en avant sur certaines campagnes publicitaires les Doué, les Dembélé, les Hakimi. C'est vraiment lui qui est le garant de cette de ce vestiaire-là.
Quand tu regardes les célébrations à chaque fois des victoires en Ligue des Champions, il est avec le président tout le temps.
Tant qu'il peut être performant, je pense que le Paris Saint-Germain je suis sûr même ne le mettra pas à la porte.
Et on a vu la gestion par Luis Enrique d'une saison entière pour Marquinhos. La Ligue 1, c'est même pas 30% de titularisation. Il compte sur lui et uniquement
c'est pour ça que pour moi
sur Ligue des Champions. Luis Enrique, il a donc une gestion possible encore sur une voire deux saisons peut-être. Non,
mais Luis Enrique, il a trouvé un cheat code sur la gestion de Marquinhos. Exactement. Ça redistribue écart parce que moi autant en fin de saison dernière, je me disais que voilà, tu pouvais envisager la sortie de Marquinhos, mais est arrivé notamment cette gestion particulière où on a beaucoup plus un Marquinhos en qualité qu'en quantité. Et ça te donne quoi? Ça donne un Marquinhos qui est déterminant sur la phase éliminatoire de Ligue des Champions. Et je vais même te dire quelque chose. Ça favorise aussi la transition, l'intégration d'un Zabarni. Parce que, en fait, si tu fais partir un Marquinhos, t'accélères, entre guillemets, l'intégration d'un Zabarni.
Tu vas responsabiliser Zabarni tout de suite.
Exactement. Et là, Zabarni, là, sa saison, elle est certes contrastée, mais ça porte pas à conséquence, précisément parce qu'il y a un Marquinhos. Et moi, je me dis que dans la réflexion de la politique sportive du PSG, le fait d'avoir un Marquinhos de qualité, ça peut aussi couvrir l'investissement d'un Zabarni en te disant, OK, sur la première saison, il n'a pas été extraordinaire, mais sur la deuxième saison, il peut monter en puissance parce qu'il y a Marquinhos.
Moi, le débat, il serait plus sur une doublure à Pacho, parce qu'on voit que Beraldo est passé maintenant doublure en numéro, poste de numéro 6, que Pacho joue tous les matchs, quasiment, sans exception. Donc moi, la question, ça serait peut-être d'aller chercher un central gauche pour soulager un petit peu Pacho. Mais la question du central droit, pour moi, étant donné que Zabarni est là et l'investissement qui a été mis sur lui l'été dernier, pour moi, c'est un faux débat.
Bon, tu parles de côté gauche, axe gauche de la défense du Paris Saint-Germain. Parlons de latéral gauche également, Fabrice. C'est une des infos, un élément de réflexion au PSG. En tout cas, que faisons-nous à Paris avec Lucas Hernandez? Le PSG cherche une doublure à gauche.
Oui, le PSG cherche une doublure à gauche.
Donc, s'il cherche une doublure, ça veut dire que
profil
terminé pour Lucas Hernandez.
Comment
ça veut dire ça?
Mais non, ça veut dire
Lucas
Hernandez, contrairement à d'autres joueurs.
Tu vois les infos, tu dis.
On cherche pas à dire non, reste. Voilà. Mais non, mais c'est un joueur aussi qui est très respecté, très grand professionnel. Vous l'avez vu quand il rentre en Ligue des Champions, qui joue 2 minutes, 10 minutes, qui joue pas du tout. Il est dans l'esprit. Donc, c'est quand même un joueur.
Sa vie à Paris, tout va bien.
Le salaire est énorme. C'est un joueur pour qui le club a du respect. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'il respecte le club et le club le respecte aussi. Donc, il sera pas mis à la porte comme un malpropre. Maintenant, il y a une réalité. C'est que si un joueur avec ce profil-là arrive, c'est-à-dire gaucher, plutôt jeune, donc on imagine aussi performant, qui va essayer de gratter du temps de jeu, aller gratter les chevilles de Nuno Mendes, pourquoi pas, de Pacho aussi. On comprend bien que mathématiquement, il y en a un qui va en faire les frais et ce sera Lucas Hernandez. Donc après, ça va être comme pour Donnarumma la saison passée. On lui a expliqué que Lucas Chevalier allait arriver en numéro 1. C'est où tu restes, mais tu ne vas pas beaucoup jouer, où tu t'en vas chercher du temps de jeu ailleurs.
Surtout qu'on a vu avec Luis Enrique, Lucas Hernandez peut jouer ce poste de central gauche, sauf que Luis Enrique ne le considère absolument pas comme un central. Donc si un arrière-gauche arrive, malheureusement pour lui, ça a l'air d'être la fin.
Exactement. Alors, beaucoup de questions également concernant Elie Kroupi Junior. Si c'est lui que le PSG a tiré dès cet été, après son excellente saison à 12 buts en Première Ligue.
13 même.
Il est passé à 13, oui.
Ouais, 13. Saison.
Merci Elton. Est-ce que c'est une réflexion ou pas, Fabrice, Elie Kroupi Junior, plutôt qu'un Julian Alvarez qui semble préférer aller au Barça?
Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, apprécié aussi par la direction sportive, par Luis Enrique. Et en fait, pour pas exciter les gens, il faut leur dire la vérité. Je pourrais vous dire aujourd'hui que oui, le Paris Saint-Germain va aller recruter Junior Kroupi, mais la réalité c'est que un, j'en sais rien, et deux, on sait pas si vraiment ils vont activer la piste. Est-ce que c'est un joueur qu'ils apprécient? Oui. Est-ce que c'est un joueur qu'ils vont activer? Non. Moi, des noms de joueurs qui sont pas sortis, qui sont appréciés par la direction sportive, j'en connais, mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller dessus. Et c'est comme ça tous les étés. Donc, il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui, mais en tout cas, oui, c'est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du Paris Saint-Germain, mais il est apprécié par je vous mets au défi de me citer une direction sportive qui n'aime pas Junior Kroupi aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est le Golden Boy. C'est l'attraction du marché estival avec Julian Alvarez. Et ça en dit long sur sa considération parce que à partir du moment où tu as marqué 13 buts en première ligue, ça t'envoie sur un autre monde. À partir du moment où tu as contribué au fait que Bournemouth soit 6e de première ligue, forcément, tu vas être très attractif, pas seulement du côté des clubs anglais, mais surtout du côté des clubs européens. Il est en plus de nationalité française. Donc forcément, ça va être l'attraction du mercato. Maintenant, j'ai envie de te dire quelque chose, Nico, c'est que son futur investissement de transfert d'une certaine manière le protéger et donc redistribuer des cartes. Je veux dire par là, si tu l'amènes à 100 millions d'euros, c'est pas pour jouer les éléments de composition.
Ça aussi c'est une autre question. C'est pas pour bien sûr que si, parce qu'aujourd'hui et on en parlait tout à l'heure, quand on parle de Désiré Doué, de Kvaratskhelia, de si on parle depuis tout à l'heure du probable, du possible si jamais il souhaite s'en aller et Barcola, mais on parle de tout ça pourquoi? Parce que justement, il a un temps de jeu qui est insuffisant, en tout cas, il pourrait peut-être prétendre à plus. Élie Junior Kroupi, s'il arrive au Paris Saint-Germain, qui coûte 50, 100 ou 150, c'est pas pour ça qu'il va prendre la place de Désiré Doué.
Il a coûté 65 et pourtant il a posé ses fesses sur le banc.
Étonnant à croire qu'à son âge il acceptera dans un premier temps.
Attention, je suis pas fermé sur ça parce que.
Junior. Non, j'y crois pas parce que t'arrives au PSG du championnat d'Europe. Il a le vent en poupe, il a tous les grands clubs anglais sur.
Il faut aussi te dire que Élie Kroupi, il a le choix du roi. Il a le choix du roi, il y a beaucoup de clubs qui vont se positionner sur lui. Et que forcément, il a envie d'avoir un statut de titulaire.
La difficulté pour moi dans ce dossier réside aussi dans la négociation qu'il va y avoir entre Bournemouth et le club qui va l'accueillir. Parce que la réalité, c'est que Bournemouth, ils veulent pas le vendre. Ils jouent une Coupe d'Europe et ils en demandent autour de 100 millions d'euros. Est-ce que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est prêt à payer 100 millions d'euros sur ce profil-là? C'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Mais est-ce qu'ils sont prêts à lâcher 100 millions d'euros? Ça va être une vraie question. Et la question va aussi se poser pour Yann Diomandé, dont on parle beaucoup.
Bon, Yann Diomandé, Leipzig, 12 buts, 9 passes cette saison en Bundesliga, révélation ivoirienne du championnat allemand. Quant à Élie Kroupi, même s'il vient, je disais en doublure un peu rapidement, il aura beaucoup de temps de jeu comme tous les joueurs du Paris Saint-Germain avec l'alternance Ligue 1, Coupe, Ligue des Champions également.
Il peut accepter.
Il fera ses 20 matchs comme titulaire s'il vient ici et puis il marque pas ses 12-13 buts. Mais il n'est pas là, encore loin de là, même si beaucoup le réclament sur le chat de la chaîne YouTube de l'After.
Il sera là, je n'ai pas dit qu'il ne viendra pas, je dis que pour l'instant il n'est pas là.
C'est ça, pour l'instant il n'est pas là, t'es là, t'es pas là. Dans un instant, on va parler du Real Madrid, le cirque, je me régale, les pop-corns, la campagne présidentielle entre Enrique Riquelme et Florentino Pérez. Tout le monde envoie des promesses intenables. On va se marrer, on va en parler avec Thibaut Leplat dans un instant en direct de Madrid. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fabrice Hawkins qui se prépare pour la Coupe du Monde. La valise est prête, Fabrice, ou pas encore? Toi, c'est le genre de mec à la faire deux dernières heures avant le départ, non?
Exactement.
Mais quand c'est quelqu'un de simple, Nico, tu mets des aéroports. Mince, la brosse à dents. Il va acheter 350 euros à l'aéroport, tout est plus cher. Et il passait en note de frais en plus.
Oui, mais c'est toi qui m'as dit.
Elton Mokolo est là également ce soir. Adem aussi. On est ensemble jusqu'à 22h, la dernière demi-heure de Génération After, avant de passer le relais tout à l'heure à Maxime Chano, Lionel Charbonnier et Karine Galli pour l'After jusqu'à minuit. Alors, on accueille une grande voix de l'After historique. Thibaut Leplat est avec nous. Salut Thibaut.
Salut Thibaut.
Salut les gars, salut camarades, ça va bien?
Salut Thibaut, comment Thibaut, ça va? En direct de Madrid, il y a un petit décalage de 3-4 secondes, donc ne coupons pas Thibaut, sinon ça va être la cacophonie. Alors Thibaut, on est heureux de t'avoir pour parler d'un sujet qui est proche géographiquement de toi, qui est proche aussi je pense en termes d'intérêt journalistique, la campagne pour la présidence du Real Madrid. Un régal nous à suivre à distance en tout cas, franchement je disais c'est popcorn. Les deux candidats envoient des promesses folles. D'un côté, je précise le contexte, le président sortant, mythique, légendaire à Madrid, Florentino Pérez, 78 ans, et en face, en concurrent, Enrique Riquelme, 37 ans. L'élection, c'est dimanche. Première élection, d'ailleurs. Nous, on découvre un peu l'ambiance depuis 20 ans pour prendre la présidence du Real Madrid. C'est à qui fera les plus grandes promesses, Thibaut. Raconte-nous comment c'est vécu là-bas. On dirait quasiment une élection politique, hein, avec des vrais candidats. Ça fait beaucoup parler à Madrid, j'imagine.
Bah, c'est comme une élection présidentielle. Hein. Vous avez deux candidats, vous avez des programmes, vous avez des promesses. Alors là, cette fois-ci, les promesses, c'est Haaland d'un côté, c'est Dumfries de l'autre. Vous avez des programmes. Bah, certains, ça va être pour Florentino, ça va être de continuer à faire ce qu'il fait. Il a quand même gagné 7 Ligues des Champions. Bon, donc on va dire que le bilan est plutôt positif pour lui. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. De l'autre côté, vous avez un concurrent moins connu, plus jeune. Plus moderniste, qui va dire il faut moderniser le club, il faut amener des nouvelles têtes, et qui, lui, par la particularité d'Enrique Morente, parce que Pérez, tout le monde le connaît, Morente, il y a encore deux semaines, personne ne le connaissait en Espagne, hein, c'était vraiment un inconnu. Eh bien, il arrive, il promet de faire venir des stars comme Haaland, et en même temps de faire revenir les anciens glorieux, brouillés avec Pérez, comme Iker Casillas, comme Fernando Hierro, comme Vicente del Bosque, aujourd'hui, qui a dit qu'il soutenait cette candidature et qu'il y participerait. Donc petit à petit, voilà, petit à petit, l'inconnu dont tout le monde se moquait un peu au début est en train de prendre de la place, beaucoup de place dans les médias aussi. Et on est curieux de voir ce qui va se passer, quoi. C'est un peu comme les élections présidentielles.
Il a une chance de gagner
au début,
ou pas réellement,
tout à l'heure, c'est clair. Et puis au fil.
Thibaut, est-ce que tu m'entends? Est-ce qu'il a une chance de gagner? Je te demandais, Henrik Ericsson.
Ouais, je t'entends. C'est juste que je veux pas te couper. Donc,
vas-y.
Il a une chance de gagner. Il faut voir. On sait pas. En tout cas, il était. On prédisait un plébiscite pour Florentino Pérez. Et puis petit à petit, les espèces de sondages qu'il y a, parce que c'est pas très clair les sondages qu'il y a, c'est des médias qui les font, tout ça n'est pas très très un peu artisanal quand même. Ce qu'on constate, c'est que la campagne de Pérez est en train de devenir beaucoup plus agressive. Alors peut-être certains ont vu passer à un moment lors d'une émission, je crois que c'était hier soir ou avant-hier soir, sur L'Hormiguero, qui est la grande émission que tout le monde regarde en Espagne, où l'invité star, c'était le Enrique Morente, qui venait dérouler son programme et qui venait expliquer un peu
Morente,
qui
était. Calmé, comment on l'appelle,
fin de l'émission. Enrique Riquelme, c'est son prénom, et Riquelme, c'est son nom de famille.
D'accord.
Et donc dernier, il termine l'émission, merci, au revoir messieurs, dames, etc. Et premier écran de pub, Pérez qui annonce l'arrivée de José Mourinho, avec une espèce d'animation un peu étrange, où il avait acheté en fait l'écran de pub juste derrière l'émission pour pouvoir damer le pion à son concurrent. Voilà l'ambiance, quoi.
Bon, ça c'est l'ambiance, et puis il y a des promesses là, on va se poser dessus. Et Fabrice, on est content de t'avoir à nos côtés pour nous dire si c'est réalisable ou pas, c'est un délire absolu.
Bah déjà il y en a un, il fait des promesses et qui sont démentis dans la foulée.
Enrique Riquelme annonce un ticket Rodri Haaland. Le père d'Alain dans la folie, mais c'est quoi ce délire? On est où en fait là?
Il a démenti le démenti, Riquelme, depuis. Hein.
Il a démenti le démenti.
Pour dire que oui, il fallait protéger le joueur, mais que ça allait se faire quand même.
C'est incroyable. Franchement, c'est
après,
les deux là.
Il a présenté aussi des documents signés devant notaire.
Vas-y, continue Thibaut.
Pour justifier et authentifier le fait qu'il avait un accord avec Alain et Rodri.
On l'a compris, un petit décalage avec Madrid. On se marche un peu dessus. Écoutons notamment ce que propose Florentino Pérez. C'était également en direct à la télévision espagnole. Regardez.
Je vais prochainement faire une offre à un club important de Ligue des Champions, sûrement dès mardi. Ce sera le montant le plus important jamais payé par le Real Madrid pour un joueur. 150 millions au moins.
Alors, les médias espagnols disent. C'est clair, c'est Michael Olise. Voilà. Parce que lui, cite beaucoup de joueurs, il dit non, c'est pas lui. Mais il ne cite pas Michael Olise, en l'occurrence Florentino Pérez. Ça aussi, ça fait beaucoup réagir. Quelle est la réalité de tout ça? Tu l'as pas forcément, mon cher Thibaut. Mais surtout, ma question, c'est est-ce que les socios du Real qui vont voter dimanche, ben, c'est pas des gogos quand même, ils ont assez d'expérience pour comprendre que tout ça c'est du vent.
Non mais attends,
que soit Enrique Riquelme ou Florentino Pérez.
Pas totalement, parce qu'en fait il fait des promesses quand même. Il y a de la suite dans les idées du côté de Florentino Pérez. Quand il dit qu'il va ramener José Mourinho, c'est la réalité. D'ailleurs le Benfica a déjà communiqué pour dire que le Real Madrid a fait une offre.
C'est réalisable Mourinho, tu peux dire.
Oui non mais justement. Fabrice. Non mais quand tu dis c'est n'importe quoi des deux côtés, bah pas totalement parce que de la même manière le Real Madrid est sur Ibrahima Konaté, il l'a promis Florentino Pérez, Denzel Dumfries, les Néerlandais. Nous disent tous que.
Ce que je veux dire, c'est qu'ils affirment que s'il est président, il viendra. Ça n'a pas de sens de parler comme ça. Tu connais mieux que moi les négociations sur un mercato, surtout à ces hauteurs-là, pour un mec à l'Elysée. Pas parler les gens pour des idiots.
Attends,
non plus.
Non, mais il y a deux choses.
L'autre, il dit c'est signé. Signé.
Il y a deux choses. Il y a d'un côté Mourinho, Konaté, Dumfries. C'est du domaine du réalisable. Je pense que ça va aller au bout quasiment pour les trois dossiers. Konaté, faudra être sûr, faudra regarder les derniers détails, parce qu'il y a d'autres clubs aussi. Et. Michael Olise, où là c'est totalement différent parce que Michael Olise, et je l'avais dit, je me souviens en mars dans un papier sur rmcsport.fr où on parlait notamment de Liverpool et de comment est-ce qu'ils allaient remplacer Mo Salah. Si demain on apprend qu'il y a 150 millions d'euros à mettre pour récupérer Michael Olise, je peux vous dire que l'ensemble des directions sportives des grands clubs, que ce soit à Paris, Liverpool, Arsenal, tout le monde va se mettre sur le dossier. Michael Olise, c'est aujourd'hui l'ailier ultime, c'est celui que tout le monde veut. Donc c'est vrai que j'ai du mal à croire qu'il ait déjà un accord avec Michael Olise et encore plus avec le Bayern Munich qui a dit qu'il était un intransférable.
Non, mais Fabrice, là, tu mets les formes, c'est un effet d'annonce. C'est un effet
oui, c'est ça. Oui, non, mais on l'a dit, totalement.
Parce que aujourd'hui.
Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais là où il est fort, Florentino Pérez, c'est qu'il y a un peu de vrai, un peu de faux. L'autre, j'ai l'impression que.
Aujourd'hui, on se satisfait du fait que Florentino Pérez va faire une offre mardi à un club qui peut faire. On a vu, on refuse. Et voilà, l'histoire est
s'en fout. Il a déjà fait des promesses, Thibaut Florentino Pérez, dans le passé, qu'il n'a pas tenu. Il s'en fout.
Il y a un précédent célèbre, vous avez peut-être vu le documentaire sur Figo. Il se fait élire comme ça, Florentino Pérez, il arrive comme ça, challenger, personne, il sort de nulle part, il se présente contre Lorenzo Sanz qui vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions, qui avance les élections comme lui, et il dit, je vous amène Figo, personne ne le croit, il dit, s'il n'est pas là, je vous rembourserai votre quota de sociaux. Figo lui-même dément dans la presse barcelonaise, et finalement Florentino est élu et Figo est obligé de venir. Vous avez peut-être vu le documentaire, c'était en 2000. Figo vient, il a fait une tête d'enterrement au moment de la présentation parce qu'il s'est fait un peu piéger par Florentino et l'agent de Figo, et du coup il est venu. Donc ici ils disent, si ça avait été avant, ils connaissent le précédent Figo, ils savent que tout est possible en fait, et qu'il y a peut-être quelque chose de vrai, quoi. Donc voilà, faut prendre en compte cette idée que il y a un peu de cirque, mais en même temps, c'est un club où par définition tout est possible. Quoi.
Mais moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que les deux projets sont catastrophiques, parce que dans les deux projets, c'est la course aux stars, alors que ça fait déjà 2 ans que tout ce qui ne va pas au Real Madrid, c'est cette accumulation de stars, et on veut en rajouter encore plus pour se faire élire. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que les socios apprécient ça. Donc je pense qu'on est peut-être un petit peu sadique du côté du Real, parce qu'on voit que ça ne fonctionne pas, et on veut encore empiler des stars. On envoie 150 millions, et en plus, Florentino Pérez dit au moins 150 millions d'euros. Donc il commence l'enchère à 150. Donc ça peut-être aller beaucoup plus haut, 180, 200, parce que s'il y a...
On lisait 150 millions,
oui, t'as raison, il dit au moins.
La sémantique, le choix des mots est maladroit. Au moins 150 millions, parce que on peut aller beaucoup plus haut.
Si Yann Dumandé c'est 130, si Barcola c'est 130, Michael Olise c'est au moins 200.
Ouais. 300 même.
Sauf que Michael Olise,
parce que pour Pérez, plus c'est cher, plus ça l'intéresse, parce que c'est de la pub. Donc lui, il dit, et pour le socio, 150 millions, c'est bien, mais le Real, c'est le plus grand club du monde, il doit acheter ses joueurs le plus cher possible. C'est pas, tu vois, c'est pas Lorient ou Ajaccio, pardon, avec tout le respect que j'ai pour les supporters ajacciens et l'Orientais. C'est un club où la somme fait la pub, fait la grandeur du club. Donc plus c'est cher, mieux c'est, en fait.
Florentino Pérez, c'est soit c'est gratuit, ou alors on...
Oui,
il envoie de la brillance, de la paillette,
non,
il en
justement, faut, mais... j'ai une question à poser à Thibaut. T'as beaucoup écrit, sur Florentino Pérez et globalement sur Real Madrid. Qu'est-ce que ça dit, notamment ce que fait en ce moment Florentino Pérez en 2026 sur lui et globalement sur l'entité, le modèle qu'il met en avant?
En fait, il y a vraiment là dans cette élection l'enjeu, c'est qu'on a un monsieur qui a 79 ans, qui veut pas lâcher le club, qui a pas du tout préparé sa succession, qui gouverne le club un peu en solitaire avec son directeur général, Rosensel Sanchez, qui n'a pas de directeur sportif, qui a un lien direct avec les joueurs, qui a épuisé 4 ou 5 entraîneurs en très peu de temps, plus de 50 millions de commissions, plus de 50 millions juste d'indemnités pour les entraîneurs, et en face, on a un challenger beaucoup plus jeune, qui paradoxalement essaie de renouer avec une forme de tradition du Real. Celui qui défend un peu le modèle international, on va se développer, on va privatiser une partie du club, parce que ça c'est un grand enjeu de l'élection, c'est Florentino Pérez. Et celui qui veut revenir un peu aux sources du Real avec les anciens et surtout pas privatiser le club, garder le statut associatif, parce que le club reste une association, il peut pas lever des fonds comme une entreprise, c'est plutôt Enrique Morente. Donc c'est vraiment deux choix un peu. Tu vois, dans une élection présidentielle, on dirait deux choix de société. Là, c'est un peu la société, mais au sens privé.
C'est ça.
Privé,
et Enrique Riquelme, pour être précis aussi, il appuie là où ça fait mal pour Florentino Pérez. Le bilan récent à Real Madrid, l'absence de Madrilène pour la première fois de l'histoire en sélection pour la Coupe du Monde, sélection espagnole. Il appuie également l'envie de faire revenir des joueurs espagnol, en tout cas au Real un peu plus, faire venir un DS, parce qu'il dit c'est absolument hallucinant qu'il n'y ait pas de directeur sportif au Real Madrid.
Il veut que ce soit Raoul.
Et il veut que ce soit Raoul, il est malin. Hierro, directeur de zone de formation, ce sera le cas s'il est élu. Il sait jouer sur la corde nostalgique également, quoi.
Non, forcément. Mais moi, j'ai l'impression.
Il a des atouts, quoi.
Moi, peut-être que je dis une énorme connerie, mais j'ai l'impression que le vieux lion, entre guillemets, Florentino Pérez, ils vont en Enrique Riquelme, le jeune lion qu'il a été à savoir bah, celui qui a commis le sacrilège, c'est-à-dire s'attaquer au chef suprême, celui dont on pensait qu'il n'avait pas quitté la présidence du Real Madrid, qui a pas peur d'annoncer notamment bah, des transferts grandiloquents type Erling Haaland. Et moi, j'ai vu dans sa communication du côté de Florentino Pérez, qui limite, faut le voir les interviews, il le dédaigne, il le critique, il le dédaigne très clairement en disant que voilà, Enrique Riquelme, voilà, sa fortune, elle n'est pas si, si importante. J'ai l'impression qu'il y a un début de quelque chose qui m'intéresse du côté du Real Madrid et notamment son modèle de gouvernance, son modèle de présidence.
Mais ce qu'il faut, comprendre que le Real, pardon, excusez-moi, faut comprendre que les élections au Real, le Real, c'est l'équivalent d'un ministère. Enfin, c'est quelque chose qui est très important en Espagne. C'est une institution très importante. Donc, qui est soumise à plusieurs types d'influences. Et il y a des courants dans le club. Et des courants politiques aussi également, politiques au sens large du terme. Vous avez certaines entreprises qui soutiennent Florentino Pérez, d'autres non. Et on soupçonne la candidature concurrente d'être, en fait, en sous-main des envoyés d'une autre entreprise qui est pour la cité qui est la grande concurrente de Florentino Pérez, qui est Iberdrola, qui est le fabricant d'électricité en Espagne, et lui soupçonne en fait que c'est envoyé par ses concurrents pour lui nuire dans les affaires. Donc il faut bien prendre en compte qu'il y a comme ça plusieurs courants et qu'à l'intérieur du club il y a beaucoup de déçus, il y a beaucoup de gens qui sont tombés en disgrâce du club, hein, tu as cité tous les anciens, voilà, ça, c'est pour les sociaux du Real, on voit tous les jours pour les sociaux du Real, l'énigme c'est quand même pourquoi Raoul n'est pas dans le club, pourquoi Hierro n'est pas dans le club, pourquoi Del Bosque n'est pas dans le club, ça c'est, alors ce sont vraiment des légendes absolues.
Et Thibaut, tu me disais tout à l'heure quand je t'ai appelé, il a beaucoup d'ennemis à tous les niveaux, Florentino Pérez, il a l'UEFA contre lui, on rappelle qu'il était même associé qu'il était clairement associé au projet Super League, avec la direction du FC Barcelone
encore
aussi. Ça s'est calmé récemment, effectivement, mais certains n'oublient pas, et il appuie là-dessus également, Enrique Riquelme, quoi.
Il y a un paradoxe, c'est qu'avec Florentino Pérez, il s'est fait élire, et pendant encore très, très longtemps jusqu'à ça, jusqu'à encore avant, je dirais avant 2020, la politique de Pérez, c'était toujours d'avoir une forme de gentleman, non? Être un gentleman, parler avec tout le monde, de s'embrouiller avec personne, parce que le Real était au-dessus de tout et il fallait absolument représenter cette institution centenaire et être à l'auteur de cette institution. Avec le conflit Super League, conflit avec l'UEFA, avec le conflit avec la Liga, Javier Tebas et l'ensemble des clubs espagnols, hein, la quasi-totalité des clubs espagnols, le conflit avec les arbitres, le conflit au moment du Ballon d'Or, rappelez-vous, les joueurs du Real qui repartent au dernier moment, alors que le Ballon d'Or était l'une des grandes fiertés de ce club-là. Il y a eu une évolution, une espèce de radicalisation de Florentino Pérez qui a un peu interloqué en se demandant, on est passé d'un le club le plus respecté du monde au club le plus ridicule du monde.
Ouais, l'élégance du Real éternel qui est devenu un club parfois hautain et grossier, quoi.
Quand on entend parler Thibaut, on comprend que c'est une élection qui est tout sauf sportive. Au lieu de se concentrer sur les problèmes de l'effectif actuel, avec l'accumulation de joueurs au même poste, avec des joueurs qui sont là depuis je ne sais pas combien d'années, les joueurs historiques en Valverde, Tchouaméni, c'est des joueurs qui ont gagné, qui n'ont peut-être plus aussi fin que des joueurs qui pourraient arriver. On parle d'accumulation de stars, là, tout simplement.
Thibaut, merci, c'est un régal de t'avoir retrouvé dans l'after également. C'était très intéressant d'évoquer de la dimension politique, culturelle. Nous, on hallucine en France. Alors, effectivement, il n'y a pas d'élection à proprement parler pour la présidence
pour moi,
de club.
Il y a un énorme
mais
loupé.
Mais c'est fou.
Il y a un énorme loupé.
Culturellement, c'est très différent de ce qu'on vit, nous.
Il y a un énorme loupé. Il n'y a pas eu d'affrontement. Il n'y a pas eu notamment de débat entre les deux
candidats. Alors, oui,
candidats.
Ça. Thibaut, on sait ou pas c'est
pas il a refusé. Il a refusé parce qu'il est très mauvais en débat.
Il a pas voulu faire Jean-Michel Aulas, quoi.
Il est très mauvais il a refusé parce qu'il est très mauvais en débat. Et d'ailleurs, il se rappelle une campagne de 96 où il avait été opposé à Ramon Mendoza. Il avait été ridicule face au président de l'époque. Et depuis ce jour-là, il a toujours refusé les débats télévisés.
Merci Thibaut. Thibaut Leplat.
Merci à vous les gars. Bonne soirée.
Embrasse la famille à Madrid. À très vite, mon cher Thibaut. Dans un instant, tiens, on a 10 minutes pour que Adem nous raconte sa soirée à Rotterdam. Vous savez ce qu'il est allé faire à Rotterdam cette semaine?
Non.
Il est allé voir Pays-Bas Algérie.
Magnifique.
Et l'Algérie a battu les Pays-Bas. Fin de série pour les Pays-Bas qui restaient, je crois, sur 11 matchs sans défaite.
Hâte d'entendre ça.
Énorme hold-up. On peut le dire ainsi, hein. Petit braquage quand même.
Non, ça a été totalement mérité. Match maîtrisé du début.
Maîtrisé, bien sûr.
On est pour la Coupe du Monde.
Que peut espérer l'Algérie sur ce mondial? Reste avec nous dans un instant, on en parle avec Adem, Elton et Fabrice.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
On est ensemble jusqu'à 22h, vous le savez, la dernière ligne droite de Génération After, avec Adem Djouadi, avec Elton Mokolo, avec Fabrice Hawkins, sur RMC, 21h50. Alors, puisqu'il nous reste quelques minutes, je voulais qu'on parle de ce succès, après avoir parlé du succès ivoirien sur l'équipe de France, succès algérien sur les Pays-Bas. vraie perf sur le papier, en tout cas 1-0 sur place, but de Hadj Moussa qui entre en jeu en deuxième période, qui fait beaucoup de bien. Les Pays-Bas restaient sur une série de 11 matchs sans défaite, qualifiés évidemment pour la Coupe du Monde. On va les suivre, victoire qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer depuis. D'ailleurs mardi on fera un vrai thème, un gros thème sur le niveau des sélections africaines. Sont-elles rapprochées ces dernières années du niveau des cadors européens, notamment, et sud-américains? Que peuvent-elles espérer sur ce mondial, même si elles sont toutes, bien sûr, à des niveaux de forme disparates et différents? Mais l'Algérie peut-elle être une surprise? En tout cas, on en parle maintenant. T'étais au stade, hein, à Rotterdam?
Ouais, mardi, j'y étais.
C'est un kiff ou pas?
Franchement, l'ambiance, ouais, très, très belle ambiance, à part les stadiers qui nous ont fait rentrer 15 minutes avant le match. Mais ah ça, ouais, c'est une petite aparté, je pense qu'ils ont fait exprès. Mais sinon, non, très, très belle ambiance en tribune et surtout un beau match, un plutôt beau match.
Plutôt beau match, avec une grosse domination néerlandaise, évidemment.
Oui, sur une grande partie de la rencontre, les Pays-Bas ont dominé, mais il y a quand même eu de belles phases de jeu de la part de l'Algérie. On a vu une équipe avec des idées, avec beaucoup de cœur, et le seul hic dans cette soirée, c'est la composition de départ.
Et voilà,
c'est
Petkovic. Voilà.
Parce que Petkovic, il y a des belles idées, on veut repartir de derrière, d'être gardien de but, ça, une, deux, trois touches, oui, mais par contre, des joueurs comme Riyad Mahrez, des joueurs comme Oussem Aouar ne sont clairement plus dans le coup, ils sont clairement dépassés, et quand on voit des joueurs comme Maza sur le banc, comme Hajj Moussa, et quand je pense à un Kebal qui ne va pas à la Coupe du Monde pour faire de la place à Mahrez, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'aujourd'hui, Riyad Mahrez, malheureusement, n'est plus au niveau. Quand Hajj Moussa est rentré, on a l'impression que c'était Mahrez, mais en x2, parce que Mahrez ralentit le jeu, malheureusement.
C'est dur à dire ça.
C'est dur, mais c'est la réalité. Depuis la CAN, c'était déjà le cas à la CAN. Ah oui, malheureusement, ah oui, j'ai l'impression que personne n'ose vraiment dire que Mahrez est un problème dans cette équipe aujourd'hui, dans la construction de cette nouvelle génération. Moi, il fait tâche, Mahrez.
Il fait tâche. Alors, on ne sait pas. Hein, peut-être qu'il aura un rôle différent. C'est sûr qu'il est très proche de Petkovic. C'est le relais également du sélectionneur. On l'a vu à la CAN. Hein, quand il sort, il est bord terrain et Petkovic en train de donner des consignes aux joueurs. Il a un tel statut, bien sûr, immense. 4 fois nommé Ballon d'Or, vainqueur de la CAN 2019, qu'on a du mal à l'imaginer effectivement sur le banc pour débuter. Alors j'en parlais avec des confrères algériens qui me disaient pourquoi pas jusqu'à l'heure de jeu, après il cède sa place.
Mais il peut être déjà trop tard en réalité.
Mais tu perds 60 minutes de jeu, c'est ça le problème. Moi c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait tu te forces à faire jouer un joueur qui aujourd'hui.
On ne prend plus à une fulgurance même sur coup de pied arrêté.
Oui, mais si tu me fais jouer un joueur en attendant un coup de pied arrêté, c'est pour dire quand même le niveau qu'il a.
Arsenal, Nico. T'as raison. C'est vrai.
Bah, il pourrait
collectivement, t'es pas aussi efficace, quoi. Alors, ce qui est énorme, c'est Lucas Zidane, qui était un petit peu discuté lorsqu'il a fait le choix de l'Algérie à l'époque, qui finalement a été désigné numéro 1 juste avant la CAN. Il a enchaîné les matchs, blessé en fin de saison avec Grenade. Il joue avec un masque énorme, et là il y a un effet Donnarumma, t'as l'impression, la blessure et tout. Le mec, il fait le match de depuis son arrivée en sélection algérienne.
Non, il faut dire qu'il y avait un vraiment qu'à ce poste de gardien, et que Lucas Zidane, il arrive.
Il est numéro 1 désormais, ça y est.
Oui, il est numéro 1, ça c'est assumé, et je pense qu'il va jouer la Coupe du Monde, ça c'est une certitude. Maintenant, faut pas oublier que dans cette équipe d'Algérie, il y avait un gros manque à ce poste, qu'il y avait pas de talent qui émergeait, et que Lucas Zidane, il arrive parce que c'est la fédération qui fait la démarche d'aller le chercher, parce qu'il y a un problème à ce poste-là. Et en tout cas, sur le match de mardi, il a fait un vrai bon match. Il a été rassurant pour sa défense, que ce soit dans les airs ou sur sa ligne. Honnêtement, il a fait vraiment un très très bon match, et je pense qu'il a sécurisé définitivement sa place pour la Coupe du Monde mardi soir.
Bon, voilà pour ce petit point rapide. Hein. On va en traiter, vous l'imaginez bien, pendant toute la durée de la Coupe du Monde, au moins sur la phase de groupe. L'Algérie, attention, hein, qui va démarrer par Argentine.
Ouais. Gros match.
17 juin, merveilleux.
Le match que beaucoup
mais c'est bien de les prendre maintenant, les Argentins.
Beaucoup de monde attend, ouais.
Les prendre sur un premier match.
Oui, un peu comme l'Arabie Saoudite au Qatar.
Ouais, et puis ça va monter en pression, en puissance, doucement. On le connaît avec
c'est
des moteurs.
On va prendre en troisième quand ils sont déjà qualifiés aussi.
T'as pas tort, même si t'as intérêt à terminer premier hein, dans ce groupe. Hein.
Le deuxième, normalement, prend l'Espagne, ensuite en barrage.
Ben, c'est ça. Tu prends, le deuxième prend l'Espagne.
Et ou l'Uruguay, si tu finis. Ça va passer.
Non, je suis confiant.
Ouais. Jordanie, deuxième match, et Autriche pour l'Algérie. On sera là pour les commenter, bien sûr. Merci Elton Mokolo. Merci Fabrice Hawkins.
Avec
t'es
plaisir,
Fabrice. C'était cool.
Ouais, j'adore.
Tu bosses ce week-end?
Oui,
tout le temps. Tu là, bosse tout le temps. Parce que le téléphone à la batterie, il travaille.
Ah oui, ça,
c'est évidemment. Alors,
tu crois pas si bien.
Et ça, c'est cool. Merci Adem.
Merci à vous.
C'est un plaisir de t'avoir. T'as kiffé ta première?
Incroyable.
Vraiment?
Ouais, vraiment. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Et c'était vraiment une très, très belle première. J'ai kiffé le moment.
Tu n'es plus un auditeur désormais. Tu es un débatteur, éditorialiste dans Génération After et dans l'After. Voilà, c'est terminé dans un instant. L'After, à partir de 22h, avec Karine Galli, Maxime Chano et Lionel Charbonnier. Restez à l'écoute d'RMC. Bonne soirée à tous. Bye bye.